Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Ça coûte cher prendre l'avion au Québec, voyager sur le territoire québécois. Là, on a tous vu des comparatifs dans le passé. Par exemple, là, pour aller aux îles de la Madeleine en haute saison l'été, ben, le billet est à peu près pas mal toujours plus cher qu'un billet pour Paris, par exemple. Maxime Sarrazin, notre fidèle gardien des réseaux sociaux ici dans l'équipe du Québec maintenant, a de la famille sur la Côte-Nord, donc a déjà eu à prendre l'avion pour aller à Blanc-Sablon. Et aujourd'hui, il m'a sorti le prix pour aller à Lourdes, de Montréal à Lourdes. Lourdes, oui, à Blanc-Sablon. Okay, ça, c'est en Basse-Côte-Nord. Là, c'est assez loin pour être allé dans ce coin-là. 2135 $ par personne. Disons que ça donne pas le goût quand ça te coûte plus cher aller à Blanc-Sablon qu'aller en Asie. Ben là, à partir du 1er juin, vous allez pouvoir vous procurer, semble-t-il, des billets d'avion pour un maximum de 500 $ l'aller-retour à destination de plusieurs régions du Québec. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre des Transports, François Bonnardel, et la ministre du Tourisme, Caroline Proulx. On va écouter un extrait de la conférence de presse.
L'ensemble des transporteurs, on va signer avec eux une entente annuelle. À chaque année, on va signer une entente, on va définir un coût X. Exemple, si le coût Montréal-Sept-Îles est de 700 $, ben un Air Canada pourrait pas dire, moi, il me coûte 2000, puis tu vas me rembourser la différence, sinon ça aurait aucun sens. C'est important pour ceux qui nous écoutent, vous n'aurez pas à demander un remboursement. Là. Vous allez aller à partir du 1er juin sur le site de Pascan, d'Air Inuit, Québec, Air Canada, où vous désirez aller, je sais pas moi, Montréal-Fermont ou Montréal-Chibougamau, ou Montréal-Gaspé. Vous allez avoir le rabais qui va s'appliquer directement sur le site de l'avionneur. Et c'est l'avionneur qui va demander un remboursement par la suite au ministère.
J'ai dit que c'était un extrait de la conférence de presse, un extrait d'une entrevue du ministre Bonnardel avec Bernard Drinville ce midi. La mesure va coûter 261 millions de $ pour les prochaines années. On va parler de tout ça avec Martin Soucy, qui est président directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Monsieur Soucy, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, question plate en commençant. Pourquoi c'est au fonds public à financer les voyages des Québécois loin des grands centres?
Ben, en fait, on a un grand territoire au Québec. Moi, je pense qu'on est dans l'occupation du territoire, puis les expériences touristiques, elles sont loin. Puis là, on est vraiment dans le cas de figure. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Donc, est-ce que c'est trop cher? Il n'y a pas de demande? Est-ce que c'est la demande? Donc là, le programme, et nous, on est satisfaits, va permettre de lancer ça en espérant que les volumes vont faire en sorte qu'à long terme, de façon pérenne, ben ça abaisse le coût des billets d'avion, que la desserte soit fiable, puis que ça simplifie la vie des consommateurs pour justement amener à la découverte et donc aux retombées économiques via le tourisme dans les régions du Québec. Donc, c'est comme une mise de fonds pour partir quelque chose. On espère qu'il va aller très, très loin, notamment pour prolonger les saisons touristiques. Là, vous avez parlé de l'été, mais faut pas oublier qu'on a un hiver au Québec qui peut être fabuleux, par exemple, en Gaspésie, mais encore faut-il se rendre. Donc, on s'arrête de s'inscrire comme d'autres destinations dans le monde. Et au niveau économique, le tourisme a un apport quand même de 16 milliards. Donc, je suis assez convaincu que le gouvernement va récupérer sa mise.
OK. Donc, mais pour vous, l'argument du financement par les fonds publics de billets d'avion de compagnies privées, je suis pas sûr d'avoir compris c'était quoi, là.
Ben, en fait, essentiellement, c'est qu'il faut partir de quelque part. Les compagnies aériennes desservent le Québec. Hein. Il y a l'occupation de l'ensemble du territoire, c'est grand le Québec. Donc, à partir de là, le transport aérien, c'est une des facettes qu'on va pouvoir utiliser. Puis effectivement, il faut partir. Moi, nous, dans la réponse, dans le fond, ce que je vous dis, c'est que les retombées économiques que ça va générer, que ce soit en tourisme d'affaires ou encore en tourisme d'agrément, ou de la population qui se déplace, le gouvernement va récupérer sa mise à moyen long terme, très certainement, mais il faut être capable d'augmenter les volumes pour maintenir une stabilité et développer l'habitude de prendre l'avion pour aller dans des destinations touristiques que vous peut-être que vous retiendrez pas, puis vous allez aux États-Unis à la place, mais là, on va essayer de garder les retombées économiques au Québec. Nous, c'est de la façon qu'on le voit, puis ça va permettre aussi d'étaler les saisons touristiques en automne, en hiver. Donc encore là, n'oubliez jamais, quand un touriste voyage dans une région, va dépenser ensuite de ça au restaurant, va louer un hébergement, va être dans les activités, donc ça vient aider à la vitalité économique des régions. Donc il faut partir à quelque part, puis cette mise de fonds-là publique va y contribuer de notre avis.
Là, si je comprends bien, ça va être disponible dès l'été qui s'en vient, dès les prochains mois?
Oui, selon ce qu'on a compris, c'est le 1er juin, donc à 5. Vous avez donné des très bons exemples de destinations avec des prix. Hein. C'est plus cher de voyager au Québec que de voyager un vol Montréal-Paris ou Québec-Paris. Donc ça n'a aucun sens. Donc ce prix plafond-là, 500 $, va donner un coup de main. Mais ce qui est important, c'est de mesurer à long terme. Est-ce que la demande va vraiment augmenter? Est-ce qu'on va développer cette habitude-là? Par exemple, pour des Montréalais, de pouvoir aller dans certaines régions qui, en ce moment, la perception du déplacement est trop importante. Alors là, c'est très abordable, dans le fond, à 500 $ de pouvoir faire l'aller-retour de cette façon-là.
Est-ce que toutes les régions sont desservies par cette entente-là?
Selon ce qu'on a vu sur la carte tantôt, ben, j'étais à la conférence de presse, il y a des destinations comme par exemple en Abitibi, Montréal, Lac-Saint-Jean, on a également la Gaspésie où il y a 3 aéroports, il y a également la Côte-Nord puis un petit peu plus haut au Québec. Donc, autant à partir de l'aéroport de Montréal que de l'aéroport de Québec. Donc, c'est vraiment les dessertes avec les aéroports régionaux qui ont été identifiés par le gouvernement.
OK, puis quelle région n'est pas couverte pour l'instant, ça, est-ce qu'on le sait?
Ben, en fait, ce que je viens de vous nommer, c'est là où il y a des aéroports régionaux depuis de longues dates. Okay. Donc, le circuit, ce qu'on a compris, là, c'est que ça comprenait, il y avait quand même beaucoup de segments. Puis ce qu'on nous disait également, quelqu'un, par exemple, qui partirait d'Abitibi puis a envie de se rendre à Blanc-Sablon, ben, c'est 500 $ même s'il y a 2 segments aériens, la question a été posée. Parce qu'il faut faire un transfert à un moment donné là dans tout ça. Comme par exemple, quelqu'un ferait Abitibi-Témiscamingue vers Montréal, Montréal-Blanc-Sablon, ben, à ce moment-là, c'est 500 $ pour tout le parcours.
Donc là, c'est 500 $ et l'excédent est payé par le gouvernement, c'est ça? Et j'imagine que le gouvernement va avoir des ententes avec chaque transporteur pour avoir une sorte de plafond.
Ben encore une fois, c'est ce que j'ai écouté comme vous, puis j'étais à la conférence de presse, qu'on a compris, c'est qu'il y a des contrats négociés avec les transporteurs sur un prix eux-mêmes maximum, parce qu'il y a des coûts d'exploitation des flottes aériennes, puis à ce moment-là, ils vont s'entendre annuellement pour que tout ça reste juste, puis qu'effectivement, j'imagine, là, encore une fois, que les compagnies restent dans des coûts d'opération qui sont raisonnables. Puis le gouvernement va plafonner pour le consommateur. Ce qui est important là-dedans, c'est pour le consommateur, lui simplifier la vie autant lors de la réservation que pour son coût et surtout d'avoir une fréquence qui est stable. Imaginez les touristes, l'avion ne part pas à l'heure et tout ça. Donc, ça fait partie pour avoir une desserte aérienne qui est sur 12 mois par année, dans le fond, sur les destinations qui ont été identifiées.
OK, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Salut, à la prochaine. C'était Martin Soucy, PDG de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Quelqu'un m'écrit, dit que c'est pas clair. Je vais le réexpliquer. Il y a des routes desservies, là, des liaisons aériennes qui vont être desservies par certaines compagnies de transport aérien, ben, qui vont faire l'objet d'ententes avec le gouvernement. Et là, si, en vertu de l'entente, le coût d'un billet, c'est 2 000 $, par exemple. Ben, parce qu'on le sait, pour aller au Québec, à certains endroits, c'est 2 000 $, c'est 1 500 $. C'est très cher à voyager au Québec. Quand on se compare avec l'Europe, par exemple, ou avec les États-Unis, qui ont des marchés domestiques très vibrants. Mais là, au Québec, semble-t-il, avec cette enquête-là, là, avec cette entente-là, dont on n'a pas les détails, là, je le précise, ça n'a pas été dévoilé encore, ben, ça va coûter 500 $ maximum. Après ça, est-ce que toutes les routes connues, populaires, vont être couvertes? Je ne sais pas. Comme je vous dis, les détails vont sortir tantôt. Mais globalement, ce que le gouvernement veut, c'est que ça ne vous coûte pas plus que 500 $ par billet pour voyager au Québec. Donc, je parlais de Maxime Sarrazin, qui est notre collègue aux réseaux sociaux, ici à l'émission Au Québec maintenant. Lui, pour aller sur la base Côte-Nord, ben, on parle de coûts qui frôlent les 2 000 $ par billet par personne. Si vous y allez en famille, au lieu de la famille là-bas, ben, on comprend que ça peut rapidement devenir impossible d'y aller à moins d'être Bill Gates. Donc, 500 $, là, ça devient peut-être plus abordable, mais j'ai communiqué avec le cabinet de M. Bonnardel avant l'émission. Là, il y a des détails qui vont sortir un peu plus tard, mais le ministre l'a dit. Il ne s'agira pas qu'une compagnie aérienne dise « Ouais, ben écoutez, nous, Montréal-Gaspé, Montréal-Amos, ça nous coûte 4 000 $, donc... Monsieur le gouvernement, donnez-nous 3 500 $. Il semble qu'il y aura des ententes, là, puis qu'on va mettre des prix sur certaines liaisons. Voulais-tu dire quelque chose, Carl?
Non, mais je suis quand même ravie parce que c'est vrai qu'aller aux îles de la Madeleine, c'est rendu mes prix qu'aller en Europe. Tu pars en vacances.
C'est le double ou le triple, Catherine. Aller à Moscou, ça va te coûter 800 $, puis si tu veux aller aux îles, ça va coûter 2 500 $. Ça n'a pas de bâton d'aller.
C'est un peu ironique de dire qu'on veut voir notre Québec, puis c'est presque impossible.
Mais là, si ça coûte juste 500 $ aux gens, bonne chance de trouver une maison aux îles.
Ça va être le fun aux îles.
Amène ta tante.
Non, mais on vous annonce qu'on va débarquer.
Sur le principe, puis on verra les détails, mais sur le principe, je trouve que c'est intéressant parce que voyager au Québec, c'est magnifique. Moi, j'ai vu des paysages incroyables sur la côte nord. J'en ai vu un peu partout. Je suis allé dans le Grand Nord. Je suis allé dans le coin au nord de l'Abitibi. C'est magnifique, OK? Mais Christy, tu y vas en auto, ça te prend la journée y aller, une autre journée pour revenir. C'est un peu la même chose sur la Côte-Nord. Je me trompe pas, là, je ne veux pas parler à travers mon chapeau. Baie-Comeau, qui est très loin, géographiquement, c'est le centre du Québec. Puis quand tu arrives à Baie-Comeau, là, t'en as encore un grand bout à faire vers l'est avant d'arriver au bout. Si ça peut nous permettre de découvrir le Québec, bien, c'est une bonne idée.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Si vous habitez à Montréal, si vous travaillez à Montréal, si vous venez régulièrement à Montréal, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, la ville. Vous prenez les transports en commun, les stations de métro, les rames de métro. Il y a des gens en détresse, je dis en détresse entre guillemets, qui sont clairement pas bien, qui parfois se parlent seuls, qui ont des manifestations d'agressivité, qui vont crier, qui vont menacer les passants. Ben, c'est ça un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Des fois, les interactions sont tragiques. Ça fait parfois des blessés, ça fait parfois même des morts. T'sais, si un psychotique pense que t'es le diable et qu'il doit te tuer parce que le diable veut le tuer, ben bonne chance. Ça donne des interactions qui sont potentiellement mortelles. Et ne pas soigner les malades, même quand ils sont réputés être dangereux auprès de leurs proches, ben c'est un choix de société qui résulte en des interactions qui peuvent être mortelles. Jacques Côté est mort à Lac-Saint-Charles, c'est près de Québec. La semaine passée, il avait 65 ans, aurait été battu à mort par Kim Lebel, 30 ans, son voisin, qui habitait avec ses parents. Et les parents de M. Lebel venaient d'aller chercher une ordonnance du tribunal pour que leur fils soit évalué. Ils avaient peur de lui. La police de Québec a tardé avant d'appliquer l'ordonnance du juge. Et pendant que la police de Québec, selon la chronologie fournie par les parents de M. Lebel, tardait à agir, ben M. Côté est mort. On va parler de tout ça dans un instant avec Dr Gilles Chamberlain, médecin psychiatre à l'Institut Philippe Pinel. Mais avant, je vous fais écouter un extrait de la conférence de presse des parents de Kim Lebel. On va entendre la mère de l'accusé, Lucie Drouin.
Comment les parents de Québec peuvent-ils avoir confiance en un système aussi lent et broche à foin?
Salut, Gilles Chamberlain.
Bonjour.
Un système lent et broche à foin, est-ce que ce sont des paroles exagérées?
Bien, je pense pas que ce soit le système lui-même. Je pense que c'est la loi de la façon dont elle est faite qui fait que là, on se retrouve avec une catastrophe, là. On se retrouve avec quelqu'un qui est décédé. On se retrouve avec quelqu'un qui va être accusé de meurtre, qu'on aurait peut-être pu éviter ça. Une famille qui est complètement éplorée, plus tous ceux qui ont été touchés de près puis de loin. Simplement parce que la loi dit qu'il faut attendre que le patient soit dangereux avant qu'on fasse quelque chose. Donc, faire de la prévention quand il faut attendre que le patient soit dangereux, ça devient extrêmement difficile, là. Moi, je pense que dans ce dossier-là, tout le monde a fait ce qu'il pensait qu'il devait faire. Quand les policiers sont allés voir l'individu deux jours avant, les policiers sont prêts avec la loi. Il faut qu'il présente un danger grave et immédiat. Mais il faut être très, très malade pour pas se calmer un peu quand les policiers arrivent. Mmh. Fait qu'eux, ils constatent que le danger n'est pas nécessairement immédiat. Ils n'ont pas le droit d'intervenir. Ils disent à la famille, écoutez, ça fait partie de la deuxième catégorie, celle où il y a juste un danger. Mais là, pour qu'on puisse faire quelque chose, il faut que vous alliez devant un juge chercher une ordonnance pour le faire évaluer. Et ça, pour une famille, c'est catastrophique, là, parce que dans les tribunaux, là, c'est comme si le père était contre le fils, là. C'est comme si la famille était contre cet individu-là, là. Fait que non seulement ça coûte de l'argent, ça prend du temps, mais ils veulent pas s'antagoniser, la personne. Ils sont là pour l'aider, pas pour être contre lui. Mais là, on arrive dans un système adversariel où c'est comme si on était contre cette personne-là, quand dans le fond, on veut l'aider. Et là, une fois qu'on a ça, mais là, le patient est réputé dangereux, mais pas un danger grave et immédiat. Fait quand on va voir les policiers, pour eux, ils l'avaient vu deux jours avant. C'est un danger. Ils vont aller le chercher. Il était pas pour eux nécessairement une question d'urgence. C'est un papier qui dit qu'il est dangereux, mais que c'est pas nécessairement grave ou immédiat. Fait qu'eux autres, c'est pas une urgence. C'est sûr que ça peut virer en urgence n'importe quand, mais pour eux, c'était pas nécessairement ça. Moi, c'est comme ça que je le comprends.
Docteur Chamberlain, comment on trouve l'équilibre entre... T'sais, on peut pas vivre dans une société où il s'agit de lever la main puis dire hey, regardez, Gilles, là, mon fils, mon neveu, mon voisin, il est dangereux. Et là, la police embarque le Gilles en question. Et une société où ça arrive combien de fois par année où quelqu'un est tué au Québec parce que quelqu'un est pas soigné?
J'ai pas les dernières statistiques, mais avant ça, là, c'était 12 par année. Un par mois. Un par mois, et c'est à peu près imprévisible, mais régulièrement, des familles appellent, disent, écoutez, on l'a amené à l'hôpital, ils l'ont laissé repartir. Mais à l'hôpital, ils ont le même critère. S'ils ne présentent pas un danger grave et immédiat, ils sont obligés de le laisser partir. Les médecins ont des plaintes, les hôpitaux ont des plaintes. C'est sûr que là, quand on a l'ordonnance du juge, c'est plus facile, parce que là, on a le droit de l'évaluer. Mais si on avait un autre critère, là, simplement là, qu'on puisse démontrer au juge que cette personne-là n'est pas capable d'aller chercher d'elle-même de l'aide, elle a besoin d'aide, elle a besoin de soins, mais pas capable d'y aller d'elle-même, qu'on n'attende pas nécessairement qu'il y a un danger, parce que des fois, la première manifestation du danger, c'est quelque chose de très grave, et ça devient impossible à prévenir si ce qu'on attend, c'est un danger.
Docteur Chamberlain, à quel point est-ce que, quand les professionnels de la santé posent un jugement, parce que j'ai souvent vu ça dans des cas de personnes qui se sont suicidées après avoir transité par l'urgence, là, à quel point est-ce que le manque de lit, ça teinte le jugement des professionnels?
Écoutez, c'est pas supposé le teinter.
Non, mais...
Mais des fois, c'est tentant de se réfugier derrière cette fameuse loi-là. Ça marche aussi pour les gens qui ont la dangerosité face à eux-mêmes. Si quelqu'un présente pas un danger grave et immédiat, pour le risque suicidaire, on peut pas le garder. Et là, encore là, on va chercher un ordre de cour, on pense qu'il présente un danger, on fait évaluer. Mais la loi est claire. Il faut qu'il présente un danger grave et immédiat pour qu'on ait le droit de le garder et qu'on ait le droit d'enclencher la demande de garde provisoire. Et c'est assez facile pour quelqu'un de dire, regardez, je suis plus dangereux, je l'étais hier, j'ai changé d'idée. On a beau avoir tous les critères qu'on veut, tous les facteurs de risque. À un moment donné, on va falloir se fier à ce qu'il dit. Et c'est sûr que la pression des lits est plus ou moins consciente, mais si lui veut pas rester puis il va faire des plaintes, mais c'est facile de laisser signer un refus de traitement dans ce temps-là.
Ça frappe l'imaginaire, Dr Chamberlain. 12 personnes au Québec, selon les dernières statistiques, qui sont tuées chaque année par des personnes en état de détresse psychiatrique. Je dis ça, c'est sans compter les personnes qui sont blessées.
C'est ce que je vais vous dire, c'est la pointe de l'iceberg. C'est sans compter les familles qui sont terrorisées par des membres de leur famille qui ne reconnaissent plus. Les gens changent, ils sont inquiets, c'est des menaces. Puis les menaces se font de plus en plus importantes. Il y a une espèce de tolérance qui se développe. Des fois, les patients arrivent, on dit, mon Dieu, ça fait longtemps qu'ils auraient dû demander de l'aide. Mais il y a des familles qui vivent dans la peur, mais ils ne sont pas capables de démontrer qu'il y a un danger. Avec ce critère-là du danger, c'est évident qu'on va en échapper, on ne pourra pas faire de prévention.
Merci beaucoup, c'est épeurant, puis savez-vous quoi, je vais vous réinviter pour qu'on en parle plus longuement. Je pense que c'est un problème qui va falloir aborder de plus en plus souvent. Merci beaucoup.
C'est un plaisir, au revoir.
Dr. Gilles Chamberlain, médecin psychiatre à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Rappelez-vous, là, il y a le procès de Carl Girouard là, qui a commis ses attaques au sabre le soir de l'Halloween il y a 2 ans, à Québec. Le maire de Québec avait dit, écoutez, il y a tellement d'appels de santé mentale que les policiers ne suffisent pas à la tâche. C'est une grande, grande partie de leur travail. Il ne s'agit pas de stigmatiser ces personnes-là. C'est un symbole, le fait que les policiers sont monopolisés par ça. Le mal, c'est que on manque de structure, on manque de ressources pour soigner ces gens-là. Puis j'ai posé la question au docteur Chamberlain, sur les lits. Et je veux pas lancer la pierre à des médecins, là, c'est pas ça le but ici, mais vous le savez, on manque de lits au Québec et on l'a vu avec la COVID. C'est la même chose pour les lits psychiatriques. Quand le psychiatre doit poser un jugement aux urgences, s'il y a juste 2 lits, moi j'ai beaucoup de misère à croire que on va interner, on va garder tous ceux qui devraient être gardés. On va faire une sorte de triage, on va aller au plus urgent. Ben, il y en a qui tombent, il y en a qui tombent dans les mailles du filet. Combien de personnes sont sorties des urgences après avoir été amenées là parce qu'elles menaçaient de se suicider et reçoivent leur congé, sont relâchées et quelques jours plus tard, commettent l'irréparable.
Maman, tu peux remplir tout de suite, s'il te plaît?
Oui.
Vite.
Ça fait 4 fois, là.
Hey!
tu fais ici? Tout le monde te cherche.
15h38, c'est un extrait du film Noémie dit oui de Geneviève Allaire. C'est un film, une fiction, mais qui a un angle très, très réaliste et ça aborde la prostitution juvénile.
Oui, c'est le film qui ouvre ce soir les rendez-vous Québec Cinéma. C'est signé par la réalisatrice Geneviève Allaire et elle est au bout du fil. Bonjour Geneviève.
Bonjour, c'est Geneviève Albert.
Albert, hey, mon Dieu, je m'excuse, je suis désolée.
Il n'y a pas de problème.
OK, mais ça ne veut pas dire que le film n'est pas bon. Le film est tout aussi bon, même si Geneviève Albert. Geneviève, dis-moi, j'étais très curieuse de savoir, parce que c'est ton premier long-métrage. Qu'est-ce qui t'avait autant intéressé dans le sujet de la prostitution juvénile? Ça se déroule pendant le Grand Prix, donc un week-end très, très précis où cette jeune fille qui est en fugue devient... escorte. Et pour faire un parallèle avec les courses, elle enchaîne, mettons, plusieurs conquêtes, plusieurs clients.
En fait, je suis sensible à la prostitution depuis que je suis adolescente. C'est comme une sensibilité ou un intérêt qui ne m'a jamais quitté. Donc, ça s'est un peu imposé comme sujet pour mon premier long métrage de fiction.
Et tu as discuté avec des jeunes femmes pour te documenter pour le film. Qu'est-ce que tu as retenu de ces témoignages?
Ben en fait, ça a vraiment été la matière première pour mon scénario là, parce que j'ai fait aussi beaucoup de recherches, j'ai lu beaucoup d'articles et de livres et tout ça, mais j'ai rencontré plusieurs survivants de la prostitution, puis j'ai rencontré aussi deux adolescentes qui étaient adolescentes au moment de l'entrevue et qui étaient escortes au moment de l'entrevue quand je les ai rencontrées il y a 4-5 ans. Donc le vécu prostitutionnel que ces femmes-là m'ont partagé, ça nourrit mon scénario en entier là, c'est-à-dire que ça m'a donné accès à plein de détails, à la façon dont ça se passe exactement. Ça m'a donné accès aussi à leurs états d'âme, à comment elles ont vécu ça. Donc, ça a été assez fondamental pour la construction et de mes personnages et de l'arc narratif de mon film.
Geneviève, je lisais dans Le Devoir aujourd'hui, là, il y avait un très bon papier sur le film où il était mentionné qu'on s'attarde aux clients dans dans le film. Comment, après avoir fait la recherche, quel regard t'as posé sur les hommes qui payent pour ces services-là?
Mon regard est pas très réjouissant, évidemment, là. Mais dans mon film, j'ai pas cherché à les j'ai pas cherché à les rendre pires que ce qu'ils sont. C'est-à-dire que les hommes qui achètent des services prostitutionnels, c'est des hommes ordinaires, là, tu sais. De toutes les origines, de toutes les sortes, de tous les caractères, de tous les milieux. Donc, j'ai voulu en dresser un portrait, disons, très honnête et représentatif de la réalité. Puis c'est ça, j'ai choisi d'en mettre beaucoup à l'écran, en fait, et de tourner ma caméra vers eux, parce que, étonnamment, les clients, en fait, c'est la source du problème. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de clients, il n'y aurait pas de prostitution. Puis, étrangement, sont invisibles au regard de la société. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui lève la main pour dire qu'il est un client de la prostitution. Puis, ils sont assez invisibles dans les films aussi, qui parlent de prostitution. Alors, moi, j'ai voulu aller un peu dans le sens inverse, disons, puis au contraire... leur donner un visage et un corps dans mon film.
Et ce qui est vraiment, ce qui rend le film très, très dur, là, c'est l'effet de répétition. Parce que, étant donné qu'on est concentré sur une période de 3 jours, et je rappelle que c'est pendant le Grand Prix de Montréal, elle enchaîne les clients. Donc, son chum, le proxénète, lui dit, on va faire une pause de cash pendant le Grand Prix, mais on va accumuler des clients. Et là, il y a un compteur qui roule pendant le film qu'on voit très bien avec des numéros. Et sans qu'on soit très explicite avec justement la caméra, t'es capable de nous faire sentir ce qu'une jeune escorte mineure pourrait vivre dans une chambre d'hôtel.
C'était ça l'objectif de mon film, en fait. J'ai pas voulu faire un film où j'allais... je sais pas, là, expliquer c'est quoi la prostitution, tout le monde le sait. Donc, après un client, on aurait compris, puis voilà, ça aurait été... la case aurait été cochée. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est d'offrir au public une expérience immersive puis sensorielle par rapport à la prostitution. Et ça venait, entre autres, avec le choix esthétique, disons, de la répétition des clients dans le film. Fait que, je suis contente que tu dises ça, parce qu'en fait, c'est précisément l'objectif de... de cette mise en scène-là, disons.
Ben, Geneviève, je dois te dire, je suis bouleversée après avoir vu le film. Je l'ai vu aujourd'hui, puis j'ai le cœur à l'envers.
Ah oui.
Ouais. Il y a deux actrices absolument formidables. Il y a Amy Chikwan et oui. Kelly Dépôt. Kelly Dépôt qui oui. tient le rôle principal. Comment on prépare une actrice pour aller tourner des scènes comme celle-là? Je veux avoir mm-hmm. les deux versions, celle de Kelly Dépôt. Et comment on prépare mm-hmm. les clients aussi? Parce qu'il faut le dire, évidemment, ce sont des comédiens. Mm-hmm. Mais comment on prépare les clients pour cette rencontre-là sur le plateau?
Bien, en fait, il y a eu énormément de préparation. Je pense que ça, c'est la clé là, pour faire des scènes semblables. Donc, c'est ça, j'ai fait passer des auditions aux acteurs. Après ça, j'en ai choisi, mettons, deux par rôle. Puis là, je leur ai fait passer des entrevues individuelles où on parlait de prostitution ensemble puis qu'on échangeait sur notre vision des choses et tout ça pour qu'ils sachent exactement dans quel film ils s'embarquaient. Après, on a visionné ces vidéos-là puis on a choisi en fait les acteurs avec Kelly, l'actrice principale qui joue Noémie. Puis après ça, on a fait des répétitions même dans la chambre d'hôtel où on allait tourner avec ma directrice photo pour tout trouver à l'avance les mises en scène puis toutes les chorégraphies des acteurs et de la caméra. Donc, en somme, il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Je pense que ça a été ça la meilleure façon pour préparer tout le monde à ce genre de scène-là, disons.
Geneviève, à chaque Grand Prix, là, il va y avoir un Grand Prix oui. là, après la suspension pandémique. Là, il y a oui. des débats autour de la question de la prostitution mm-hmm. juvénile. Et il y a des voix qui s'élèvent pour dire que l'organisation du Grand Prix à Montréal a aussi mm-hmm. une responsabilité. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus?
Mon Dieu, non, je saurais pas avoir un point de vue là-dessus dans le sens où, comment dire, tu sais, c'est pas de la faute au Grand Prix en tant que tel que de la prostitution pendant cette fin de semaine-là. C'est juste que dans tous les grands événements sportifs, ici à Montréal, c'est la F1, puis mettons en Europe, c'est la Coupe du Monde. Quand il y a des grands événements sportifs, il y a de la prostitution qui vient avec ces grands événements-là. Les proxénètes sautent sur l'occasion, puis la demande en services sexuels augmente énormément. Donc, évidemment, on s'arrange pour combler la demande. Donc, moi, c'est pas que je pointe le doigt sur la F1 en tant que telle. Mmh. En même temps, s'ils voulaient comme participer à l'effort collectif pour qu'il n'y ait pas de prostitution ou moins, ou en tout cas, oui, en tout cas qu'il n'y ait pas de prostitution mineure, ce serait formidable. Je pense pas qu'ils sont dans ces dispositions-là. T'sais, ils veulent plutôt s'éloigner de cette polémique-là autour de la F1 et de la prostitution. Mais je pointerai pas mon doigt vers eux. C'est pas eux le problème. Le problème, c'est que c'est toléré globalement dans notre société puis qu'il n'y a pas une volonté politique à faire changer des choses. T'sais.
Geneviève, il y a une série qui est sortie entre-temps parce que je sais que ça fait longtemps que tu travailles sur ce projet de film-là qui s'appelle, oui. la série s'appelle évidemment Fugueuse. Il y a eu deux oui. saisons. oui. C'est pas tout à fait, tu sais, la même vision. J'avoue qu'il y a des trucs similaires, c'est-à-dire la façon dont la jeune fille se fait embarquer par mm-hmm. le proxénète. Mais est-ce que tu as mm-hmm. peur que le film soit, peut-être souffre de comparaison avec la série Fugueuse?
Je pense pas. Je pense que c'est des objets vraiment différents. Oui, c'est un peu la même façon. C'est-à-dire, la façon dont les filles embarquent dans la prostitution adolescente, c'est à peu près le même schéma à chaque fois. Après, le personnage de Lévin est en tout point opposé au personnage de Noémie dans mon film. On parle pas du tout du même caractère, on parle pas du même milieu. Puis le proxénète, par exemple, Zach dans mon film, là, qui incite Noémie à se prostituer, il est très différent de Daniel en Fugueuse. Puis au niveau de la mise en scène en tant que telle, c'est complètement différent. Puis justement, c'est intéressant parce que Fugueuse, c'est une série, donc c'était des heures ou des demi-heures, je ne me rappelle plus. Mais c'était assez long. Puis dans la première saison, il y a une scène avec un client. Il y en a une. C'est une série mm-hmm. sur la prostitution. Mm. Moi, il y en a 16. C'est un film d'une heure et demie. Une heure 55. Mais c'est des approches qui sont très, très différentes. Puis t'sais, les gens qui ont aimé Fugueuse, moi, je les incite à venir voir mon film parce qu'ils vont voir d'autres choses. Puis les gens qui n'ont pas vu Fugueuse, ben, je les invite d'autant plus à venir voir mon film parce qu'ils vont découvrir cet univers-là à travers une proposition cinématographique.
Je me doute de la réponse, mais je pose la question quand même. En quoi c'est différent du documentaire, parce que du quasi-documentaire, parce que tu as copié-collé la réalité. Mais quelle liberté tu as en tant que créatrice comparée à s'être infiltrée dans un vrai réseau, t'sais?
Ben en fait, ça serait impossible de s'infiltrer dans un vrai réseau. Il y a pas un client qui veut se faire filmer de la façon dont moi j'ai filmé les clients dans mon mm-hmm, film. Fait que en documentaire, en fait, c'est précisément ça l'intérêt de la fiction, c'est que ça m'a permis de porter à l'écran une réalité qui par ailleurs serait impossible à filmer en documentaire. Mm-hmm. Puis ben outre ça, c'est la mise en scène de documentaire, c'est quand même très différent de la mise en scène d'un long métrage de fiction. Là. Donc, j'ose espérer que mon film, quand même, porte la marque d'une œuvre de fiction qui s'éloigne pas mal du documentaire.
Ben, bravo.
À part pour la recherche.
Ben, bonne chance avec la vie de ce film-là, Noémie dit oui. Merci, Geneviève Albert.
Merci infiniment.
Et je dois dire au revoir. Je dis que le film va sortir en salle le 29 avril, donc c'est vraiment dans un espace très, très rapproché.
Ça fait, j'ai vu des bouts, là.
Oui.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
Ma mère a travaillé toute sa vie dans les hôpitaux. Et elle a aussi, c'est une femme qui était malade, avait une maladie chronique des intestins, donc était souvent hospitalisée. Et une de ses marottes, c'était de se faire voler à l'hôpital. Parce que, comme employée d'hôpital, elle savait qu'il y avait des vols dans les hôpitaux, elle savait qu'il y avait des patients qui se faisaient voler. Et c'était bien important pour elle de rien laisser, de pas avoir quoi que ce soit qui soit de valeur avec elle. Et je me rappelle, j'avais été opéré à 19 ans au genou et elle appliquait la même méthode de rigueur parce que faisait pas confiance au personnel. Évidemment, là, l'immense majorité des gens qui travaillent dans les hôpitaux sont dévoués puis sont pas des voleurs, mais t'as accès à la chambre des patients. T'as accès à la chambre des patients quand ils sont souvent endormis, quand ils sont au plus mal, quand ils viennent de se réveiller de salle d'opération. Une montre peut disparaître, un bijou peut disparaître. Et c'est, je me suis rappelé de cette obsession que ma mère avait quand j'ai reçu un courriel un peu plus tôt aujourd'hui qui racontait l'histoire d'une dame de 83 ans qui a été hospitalisée à la Cité de la Santé et qui a vécu une mésaventure. On va parler à sa fille qui s'appelle Marie-Paul Oliveira. Elle est la fille de Maria. Et Maria qui fête d'ailleurs ses 83 ans aujourd'hui. Marie-Paul, bonjour!
Allô, vous allez bien?
Oui, vous, je pense que c'est une mauvaise journée. Vous êtes un peu fâchée. Racontez aux gens qui nous écoutent ce qui est arrivé à votre mère.
Oui, dans le fond, ma mère est hospitalisée depuis 3 semaines. Elle a l'Alzheimer. Donc, c'est sûr qu'elle se rappelle pas de rien. Mm-hmm. Alors, ma mère avait 2 bagues dans son annulaire gauche. Donc, sa bague, on va dire une bague de fiançailles et un jonc de mariage.
OK.
Qu'elle a depuis quasiment 60 ans. Et son jonc est très serré. Donc, c'est impossible de l'enlever. Là. Il est trop serré dans son doigt. Et nous, on va la voir tous les jours. Là. Donc, moi, je l'avais vu vendredi. Elle avait bien ses deux. Dimanche, elle avait bien ses 2 bagues. Lundi, ma soeur, avant de partir, lundi soir, elle avait bien ses 2 bagues. Et le mardi, mon père, il va dans l'après-midi. Il nous appelle. Il dit, il manque une bague. Alors, moi, ce que je comprenais pas, c'est que c'est la bague qui est après le jonc. Donc, comment il a pu enlever la bague?
Juste pour situer les gens, Marie-Paul, là, la bague était proche de la jointure. Le jonc était, disons, par-dessus. Enlever la bague, il fallait enlever le jonc, puis c'est le jonc qui était difficile à enlever, c'est ça?
C'est ça, exactement.
C'était comme une barrure, dans le fond, le jonc, là.
Le jonc est une barreau parce que même moi, pendant qu'elle était hospitalisée, j'ai essayé de lui enlever, puis j'ai pas été capable.
Okay.
Donc, j'ai eu laissé, là. Puis je me suis dit, il n'y a personne qui peut l'enlever, donc elle est correcte, là. Mm-hmm. On va y laisser.
Oui.
Alors, c'est ça. Fait que mon père nous appelle, il nous dit, la bague est disparue. Puis ben, moi, dans ma tête, je me commence à plus sortir de son doigt si son jonc est toujours là. Mais mon père avait pas tout à fait remarqué que le jonc avait été coupé. Alors, moi, je me présente hier soir, j'arrive, puis là, je fais une plainte, la bague est disparue. Donc, l'infirmière de l'étage me dit, bon, ben vous savez, vous devez pas amener des objets. Je dis, oui, on le sait, mais en même temps, je sais pas comment que la bague est sortie par-dessus le jonc.
Ouais.
Là, je vais voir ma mère, je prends les mains, puis là, je vois le jonc, je pense que vous avez eu des photos, le jonc, il est tourné à l'envers, et il est sectionné en 2. En fond, il est coupé. Il y a un petit bout, il y a un bout d'enlevé complètement. Et ils ont mis un adhésif dans les deux les bouts coupés parce que c'est un peu coupant, là, probablement qu'ils ne voulaient pas qu'elle se blesse. ils lui ont remis dans le doigt, dans le fond, pour voler l'autre bague. Alors, ça m'a dépassé, là. Je suis comme, ben voyons donc, là.
Et votre mère avait cette bague-là depuis combien d'années?
Ben, ma mère, ça va faire 57 ans qu'elle s'est mariée, là. Donc, ces bagues-là, elle les a tout le temps dans ses doigts, là. C'est comme... Puis là, quand je l'ai dit à l'infirmière, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite dit, écoute, viens voir, parce que là, tu peux pas me dire que c'est pas un vol, là. J'ai dit, ça va, tu sais, c'est coupé, là. Dans son visage, elle, c'était clair. Elle avait zéro explication, elle savait vraiment pas quoi me dire. Puis encore une fois, j'ai dit, si j'avais laissé traîner des bijoux sur un bureau là-bas, une table, je comprends. Ou même, à la limite, si ça avait été lousse dans son doigt, j'aurais dit, bon, on a été négligent. Mais là, moi, je n'étais pas capable de l'enlever. Fait que je me suis dit, c'était correct. Donc, il y a quelqu'un qui s'est dit, là, je vais amener quelque chose pour couper, pour enlever la bague que je veux. Puis, je vais remettre le jonc coupé. Alors, moi, j'ai un jonc que j'espérais avoir un jour coupé, qui vaut plus rien parce qu'il y a un bout qui est plus là, là. Puis l'autre bague, ben, est disparu.
J'imagine que vous avez fait des plaintes peut-être à la police puis à l'hôpital?
J'ai fait une plainte à la police ce matin de déposition. C'est sûr qu'eux autres, ils doivent aller voir. Ça va dépendre s'il y a une caméra ou pas. S'il n'y a pas de caméra, ben, il n'y aura pas de motif d'enquête. Et j'ai fait une requête en dédommagement à la Cité de la Santé. Ils sont pas sûrs. Elle m'a dit en principe, ils font pas de dédommagement. Ils remplacent. Mais là, dans mon cas, elle trouvait que c'était quand même une histoire qu'elle avait jamais entendue. Donc, elle allait amener ça un peu plus loin, plus haut. Puis, on va voir qu'est-ce qui va arriver, là. Je m'attends pas à grand-chose non plus, là, mais.
Marie-Paul, ça vous inspire quoi, toute cette saga-là? C'est fâchant. Mais est-ce que vous perdez confiance dans le personnel hospitalier, par exemple?
Ben, je peux pas dire qu'elle a été maltraitée, là, c'est pas ça, là. Mais moi, aujourd'hui, je me dis, c'est sûr que, comme vous avez dit tantôt, il n'y a amené aucune valeur, rien de valeur à l'hôpital parce que on connaît pas tout le monde, là. Mm-hmm. C'est ça. Puis, tu sais, maman, c'est une personne vulnérable qui a pas de qui a pas de mémoire, puis on est pas mal sûr, ça s'est fait dans la nuit. Fait que moi, je lui ai demandé si elle avait des souvenirs, puis elle m'a dit non, elle sait pas du tout. C'est ça qui me choque peut-être un peu plus, là, c'est d'avoir profité de dire, ben la madame, elle s'en rappellera pas, on va faire ça la nuit pendant qu'on lui a donné un médicament pour qu'elle dorme, tu sais. Fait que c'est ça.
Hey Marie-Paul, je sympathise. Salut votre mère Maria. C'est extrêmement fâchant. Puis merci d'avoir partagé l'histoire. Je pense que c'est un rappel pour tout le monde que, ben écoutez, faut garder l'œil ouvert, faut se méfier tout le temps, même à l'hôpital.
Effectivement.
Je vous remercie, Marie-Paul. Au revoir.
Ben merci à vous. Au revoir.
Salut, Marie-Paul Oliveira et la fille de Maria est là dans la messagerie, plein de gens qui racontent leurs histoires, soit qui se sont fait voler, les parents se sont fait voler, des proches. Et il y a quelqu'un qui dit être infirmière, elle dit, des fois, c'est les autres patients aussi qui se promènent. Ça peut être n'importe qui.
Tu sais, il y a bas.
Puis il y a très bas.
Bas dans la vie, là. Ouais. Voler la bague de quelqu'un qui fait de l'Alzheimer, vraiment, et avoir un outil pour scier sur la main de quelqu'un. Hey, ça va pas bien dans ta tête, le champion, là. Pour voler une bague?
MC, je pense qu'il y a des gens, il y a une catégorie de personnes qui vendraient leur mère pour pas cher. Pour la panner, là, comme on dit.
Je peux pas.
Moi, je suis pas surpris de ça. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ma mère travaillait dans un hôpital. Ma mère entendait parler comme employée du fait que quand t'es hospitalisé, check-toi. Arrive pas avec ton portefeuille plein d'argent. Arrive pas avec des bijoux. Arrive pas avec des objets qui ont de la valeur parce que tu risques de te le faire voler. T'sais, c'est un hôpital. La majorité des gens sont dignes de confiance. Mais c'est un lieu clos où il n'y a pas de caméra, te faire pogner, c'est extrêmement difficile.
Oui, mais comme a dit Patrick, on peut être négligent, entre guillemets, tu laisses traîner une paire d'écouteurs à disparaître. Mais là, aller scier une bague sur le doigt de quelqu'un, je te dis, je m'en remets pas.
Véronique Yvon est une de ces rares figures politiques qui fait l'unanimité, je dirais, parmi ses collègues. Aujourd'hui, elle a annoncé qu'elle ne solliciterait pas un nouveau mandat au mois d'octobre pour représenter pour le Parti québécois la circonscription de Joliette. Et il y a des voix de tous les partis, du Parti libéral, de la Coalition Avenir Québec, de Québec solidaire, qui l'ont salué, qui ont salué son engagement, la qualité de sa contribution au débat politique et social au Québec. C'était pas vraiment une surprise. Ça faisait quand même quelques années qu'elle était là, depuis 2008. Elle est au bout du fil. Madame Yvon, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
J'imagine que c'est une journée émotive pour vous.
Oui, c'est une journée vraiment remplie d'émotions, avec une meilleure dose de sérénité que dans les derniers jours, par exemple, d'atterrir puis de enfin pouvoir m'exprimer puis parler à mon monde puis tout ça. Donc beaucoup d'émotions. Je me sens, je dirais, reconnaissante de tous ces liens, de tout ce parcours avec les gens, pour les gens. C'est pas mal l'émotion qui domine aujourd'hui par rapport au vertige, je dirais, des derniers jours.
À quel moment vous avez pris la décision de ne pas vous représenter?
À la relâche du mois de mars, où ça a été vraiment comme arrêté et définitif, je vous dirais. Puis ensuite, ben j'en ai évidemment avisé chef de cabinet et chef. On a convenu que pendant l'élection de Marie-Victorin, évidemment, moi j'avais aucune envie de faire de l'interférence. Mmh. C'était un moment important puis tout ça. Donc ça fait quelques semaines que la décision est arrêtée, mais ça fait des mois qu'elle mûrissait. Et puis à chaque fois que je faisais le grand tour, ça m'amenait invariablement à cette conclusion-là que j'avais un besoin qui devenait vraiment irrépressible de trouver un espace de liberté puis de normalité qui n'est pas toujours là en politique.
On va parler de votre style plus tard, mais je veux qu'on aille sur le fond des choses. De quoi vous êtes le plus fier parmi vos accomplissements, vos engagements en politique pendant 14 ans?
Bien, c'est sûr que ce qui frappe les gens, c'est beaucoup les réalisations nationales, je dirais. Donc, c'est sûr que c'est la loi sur les soins de fin de vie avec l'aide médicale à mourir, parce que je pense que ça fait une vraie différence pour les gens qui souffrent. Puis j'ai des témoignages à chaque semaine. Donc, quand on veut être utile en politique, ben, quand on change la vie, on amène une petite parcelle supplémentaire de dignité puis de liberté aux gens en fin de vie, c'est sûr que ça fait une différence. Aussi, je vous dirais, les tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle et conjugale, puis probablement la politique nationale, la première politique nationale de lutte contre l'itinérance. Mais localement, j'ai plein de réalisations, mais localement, qui est extrêmement fort dans la vie d'une députée, puis de tout député, ils vont tous vous le dire, c'est l'aide directe qu'on amène pour changer la vie d'une personne à la fois, en réglant des petits dossiers, mais qui, des fois, pour une personne qui est sur l'aide sociale, qu'elle soit plus son chèque, qu'il y a des problèmes administratifs, je veux dire, ça peut être le jour et la nuit. Donc ça, c'est extrêmement gratifiant aussi, avec mon équipe, ce qu'on a pu bâtir avec les gens de Joliette.
Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et j'en suis, qui ont souligné votre capacité à débattre fermement, que ce soit au Salon Bleu ou en commission parlementaire, mais sans jamais vous abaisser à des critiques vicieuses, personnelles, comme on en voit souvent. Mmh. Est-ce que ça a toujours été facile de vous retenir?
Ben, assez. Je me suis fait une promesse quand je suis allée en politique. Il y a tellement de cynisme, puis je l'ai dit ce matin dans ma déclaration, mais j'entendais tellement de gens, moi j'étais impliquée en politique comme simple militante, mais j'entendais tellement de gens dire c'est tout pareil, puis ils nous comprennent pas, puis c'est tellement loin de nous, puis le Salon Bleu c'est tellement un cirque, que c'était une des raisons, là, au-delà des sujets profonds, la justice sociale puis l'indépendance qui m'interpellaient profondément. Je veux dire, je voulais aussi essayer de rapprocher les gens de la politique, puis essayer de dire, on peut-tu arrêter ça? Donc, c'est sûr que moi, je pense que les attaques ultra-partisanes, les attaques personnelles, c'est sur la personne, pour discréditer une personne, j'ai jamais voulu donner là-dedans. J'espère que j'ai jamais fait trop d'écart. Je pense pas. On peut critiquer quelqu'un, on peut critiquer son action comme ministre, mais il faut essayer de s'en tenir aux idées, aux réformes qui sont proposées, qui sont bonnes ou pas bonnes. C'est important, ce débat-là. Des fois, c'est drôle parce que les gens disent « Ah, comment ça vous critiquez? Vous êtes la personne de la transpartisanerie. » Donc, oui, je suis la personne de la transpartisanerie, je crois profondément, mais aussi, il faut être capable de débattre, mais dans le respect. C'est vraiment essentiel, je pense.
Vous êtes entré en politique, je pense, bon, pour porter certaines causes qui vous tenaient à cœur, mais je pense pas me tromper en disant que c'est la souveraineté qui vous a fait faire le saut en politique. Quel diagnostic vous posez sur l'article 1, la cause première du Parti québécois?
Moi, je pense que c'est l'aboutissement normal de tout peuple normal. Il peut y avoir toutes sortes de chemins de traverse, de trajectoires, de comme on le voit, mais je pense que cette cause-là mérite qu'on y travaille. J'espère qu'on va être capable. Puis la lutte pour le cynisme, là, ça peut avoir l'air loin, mais ça procède de ça aussi. Je pense que de rapprocher les gens de leur institution, c'est de leur donner confiance aussi dans les projets collectifs. C'est de leur donner confiance dans la chose politique, dans le fait que la démocratie peut changer les choses. Puis pour moi, j'ai toujours vu un lien étroit entre ça puis le fait de pouvoir donner assez confiance aux Québécois pour qu'ils aient le goût de se dire oui, qu'ils aient le goût de faire ce saut-là, qui est un grand saut, mais qui, selon moi, changerait vraiment notre vie, pas juste collective, mais notre vie individuelle aussi. Donc, bref, c'est sûr que je me suis investie beaucoup. Je suis consciente que c'est pas la priorité chez les gens, mais en même temps, dans chaque sondage, entre 30 et 40 % des gens se disent toujours souverainistes. C'est juste que je pense qu'il y a un énorme défi quand tu as de la misère à arriver, quand il y a l'inflation, quand tu as les enfants, quand tu trouves pas de place en CPE, de raccrocher ce grand projet collectif-là à la réalité concrète des gens. Puis moi, je crois encore que c'est ça qu'il faut faire. Je pense qu'avec une horde quand même de jeunes recrues au Parti québécois, il y a une énergie renouvelée. Je me mets pas de lunettes roses. Je suis pas dans un monde de licornes déconnectées avec des arcs-en-ciel. C'est pas ça. Je sais qu'on a énormément de travail et de défis devant nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Parti québécois, c'est un parti fait de gens qui ont une cause à cœur, des convictions. Fait que dans ce temps-là, c'est pas la recherche du pouvoir pour le pouvoir. Donc, t'es capable de te retrousser les manches aussi puis de les affronter, les obstacles, je pense. Puis je pense que le Québec mérite qu'on se permette de les affronter, ces obstacles-là, parce que cette cause-là, elle est fondamentale.
Madame Yvon, après 14 ans comme ça, comme députée, quand vous regardez en avant, qu'est-ce qui vous inquiète le plus au Québec?
Ben, je vous dirais, c'est l'extrême polarisation. Je pense qu'on n'est pas là-dedans. Puis j'espère qu'on va rester une société qui a vraiment sa bonne dose de gros bon sens, de pacifisme, de solidarité. Je pense qu'on a des acquis sociaux extraordinaires, mais c'est toujours fragile. Je pense qu'on est une société qui est bien ancrée dans des avancées social-démocrates. J'espère qu'on va continuer à penser qu'un filet social, puis que de miser sur l'égalité des chances pour une nation qui se respecte, qui respecte ceux qui ont moins de chances à la naissance, ça va rester fondamental. J'espère aussi qu'on va avoir la fierté de se battre pour qui on est, pour tout ce qu'on est. Nouveaux arrivants comme anciens arrivés, toute génération ensemble. Je pense qu'on doit ça aux défricheurs, aux bâtisseurs du Québec de se battre pour qui on est. Puis j'espère que le climat du Québec va demeurer très sain. Je pense qu'une diversité d'opinions est fondamentale en politique, mais je pense qu'il faut aussi faire de la place pour la nuance, pour l'analyse. C'est des choses qui m'apparaissent des fois un petit peu escamotées.
Là, vous me parlez en code, là.
Ah oui, vous trouvez
ben,
ça?
Quand vous me dites qu'il faut faire de la place pour la nuance, à quoi pensez-vous plus précisément?
Ben, je pense qu'on gagnerait élus et médias à faire une grande réflexion ensemble sur des fois ce qui comment on pourrait mieux servir l'intérêt public. Parce que l'instantanéité, elle est rendue omniprésente dans notre vie politique, dans votre vie médiatique. Puis je me demande si les Québécois sont toujours le mieux servis comme ça. Et c'est extrêmement difficile de s'en sortir. Nous, comme élus, on a nos plans de match, on a nos sorties, on a nos ambitions puis nos projets. Vous, comme médias, vous avez toujours la nécessité de vous réinventer, d'avoir des nouvelles de la nouvelle actualité. Mais je pense que c'est quelque chose, moi, qui me frappe. C'est-à-dire que le rythme, juste en 14 ans, a totalement changé de vitesse. Je trouvais ça extrêmement rapide quand je suis arrivée. Puis je me disais, les premiers mois,
je me souviens combien on était dans l'action tout le temps, mais que l'espace de réflexion, puis de prendre un moment avant de commenter ou de sortir ou tout ça, était pas toujours là, mais là, c'est encore beaucoup plus intense. Fait que je dis juste que je pense que ça, à quoi il faut réfléchir, que des fois, de toujours être dans le blanc, le noir, jamais le gris, tout ça, est-ce que c'est toujours comme ça? Autant les partis politiques, je dirais que la couverture de l'actualité politique, est-ce que c'est comme ça qu'on sert le mieux? Bref, je suis dans des grandes réflexions philosophiques avec vous.
C'est parfait, c'est parfait. En terminant, Mme Yvon, est-ce que votre téléphone a déjà commencé à sonner?
Ben, en tout cas, c'est vraiment drôle ce qui se passe aujourd'hui, là. J'ai pas le temps vraiment de prendre les appels, mais j'ai des petits coups de pied qui, des petits bonjours qui se font. Mais écoutez, moi, j'ai aucun plan, puis je veux prendre des distances. Je veux la prendre, la politique, voir comment je vais exister en dehors de la politique. J'ai besoin de cet espace-là, puis j'ai aussi besoin de me donner du temps pour voir comment je vais contribuer, parce que j'espère rester utile puis continuer à utiliser ma combativité pour faire avancer les choses, mais juste d'une autre manière.
Je suis pas mal certain que vous allez réussir à trouver une façon de vous rendre utile encore une fois. Merci pour ce que vous avez fait depuis 14 ans, pour la qualité que vous avez injectée dans le débat politique. Je pense que ça fait consensus aujourd'hui. Bonne chance pour la suite.
Merci infiniment de votre intérêt, encore une fois.
Salut, à la prochaine.
Au revoir.
Yannick Giguère, 45 ans, est accusé d'agression sexuelle. Il va invoquer la sexomnie pour sa défense. La sexomnie, c'est quoi? Ben, il prétend avoir eu cette relation sexuelle avec la plaignante alors qu'il était en état d'insomnie. Il semble que ce soit une défense qui est acceptée parfois devant les tribunaux. En gros, Yannick Giguère soutient n'avoir aucun souvenir de ce qui lui est reproché. Il dit que les gestes étaient involontaires, un trouble qui s'apparenterait à une forme de somnambulisme. On en parle avec l'avocat criminaliste Charles Bécoté. Salut Charles!
Salut Patrick!
Est-ce que ça arrive souvent qu'une défense de sexomnie comme ça soit invoquée?
Non, c'est pas ce qu'on appelle une défense habituelle dans les annales judiciaires.
Est-ce que ça a des chances de tenir la route en cours?
Mais ça a déjà été démontré avec succès. La question, c'est que ça touche au cœur de la crédibilité de l'accusé. Lui, sa prétention, c'est que, écoute, moi, j'ai aucun souvenir d'avoir commis ça et j'ai été déjà diagnostiqué d'avoir ce problème-là de santé. Alors là, ben, il doit faire cette démonstration-là devant la cour que c'est il y a une possibilité que c'est ce qui s'est passé. Mais sa preuve, il doit la faire, c'est une balance de probabilité. Il y a une possibilité marquée, raisonnable, que ça soit arrivé. Maintenant, ça joue au cœur de la crédibilité que la cour va accorder à son témoignage qui soulève cet élément-là. Et la poursuite, ben, elle peut, de son côté, tenter par une contre-expertise de démontrer que il rencontre pas les critères très stricts de cette défense-là.
Lui, il dit qu'il en a déjà parlé avec son médecin. Est-ce que le médecin pourrait être appelé à la barre pour corroborer le témoignage de son patient?
Ce qu'on va faire, c'est que d'ordinaire, on fait... parce que là, ça touche... naturellement, un trouble comportemental qui, là, tu as besoin d'un psychiatre pour venir en parler, élaborer les problèmes particuliers. Le psychiatre, lui, va avoir accès aux notes et au dossier médical de son médecin de famille qui a certainement noté avoir déjà discuté. Alors ça va donner un poids supplémentaire. Dans le fond, c'est une couche supplémentaire à la crédibilité à accorder à la défense soulevée.
Et toujours, là, je lis l'article du Devoir, Charles. Lui, ce qu'il dit, c'est que ça s'est déjà passé avec certaines de ses partenaires de vie dans le passé. Est-ce que ces partenaires-là pourraient témoigner?
Bon, là, c'est que on commence à faire une preuve qui est très dérivée. Et là, ça va trop loin. Alors, ces partenaires-là, parce que la Cour doit regarder, dans un premier temps... Est-ce que c'est pertinent comme preuve et est-ce que c'est nécessaire pour clore le débat? Le psychiatre, lui, peut consulter ces partenaires-là pour dresser son diagnostic qui sera reproduit dans son témoignage, dans son expertise et peut-être dans un rapport écrit que le ministère public aura accès pour pouvoir essayer de voir un contrecarré. Mais on ne fera pas venir les autres partenaires parce qu'à un moment donné, ça peut devenir un débat trop lourd à gérer qui n'est pas essentiel. On ne parle pas d'actes passés, on parle d'un acte, d'un geste isolé avec la victime alléguée dans le présent dossier et non pas les relations qu'il a eues avec d'autres partenaires.
Est-ce que...
Mais le oui-dire est permis pour l'expert.
Charles, est-ce que quelqu'un a déjà été acquitté par une défense de sexomnie comme ça au Canada?
De ce que j'ai cru comprendre, oui, ça a déjà été avancé avec succès. Moi, j'ai pas fait de recherche particulière, mais je pense que c'est effectivement ce qu'on relate dans l'article du Devoir.
C'est vraiment intriguant. Mais merci beaucoup, Charles Bécoté.
Ça m'a fait plaisir.
Salut, à la prochaine. C'était Charles Bécoté, avocat criminaliste, qui n'est pas l'avocat de l'accusé, Yannick Giguère, 45 ans, dans cette affaire-là. Donc, oui, ça frappe un peu l'imaginaire. Hein?
Ben, j'ai trouvé que c'était particulier. J'ai lu un peu sur cette maladie, puis on dit que c'est principalement aux hommes que ça arrive. Puis je me dis, si ça passe comme défense, il va falloir qu'il le règle, le problème. Parce que sinon, il devient un danger public de nuit.
En fait, il devient un danger public si lui... dit pas ça à quelqu'un qui dort avec lui, mais si je me fie au compte-rendu du Devoir, semble-t-il que la plaignante dans cette affaire-là l'a rejoint dans le lit parce que le lit était pas confortable, je pense, dans une autre pièce ou quelque chose comme ça. Semble-t-il, je te dis ça
ce
comme ça.
Ce qui mène
ça,
encore plus la confusion.
Ben oui, exactement. Mais est-ce que ça va être intéressant à suivre? Okay.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.